Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Tout de suite, les titres de cette édition. Pas d'activité mardi au Vatican pour cause de férié à l'occasion de la fête patronale du pape François. Dans cette édition, nous serons en Côte d'Ivoire pour évoquer la deuxième phase du projet FEF, basé sur l'approche confessionnelle visant à accroître l'identification et le traitement des enfants vivant avec le VIH. Caritas Internationalis a outillé jeudi 18 avril à Abidjan-Cocody une dizaine de staff de Caritas et de prêtres diocésains sur l'application Data Mobile. Au Burkina Faso, notre correspondant nous rendra compte de la messe d'ouverture des festivités marquant les 75 ans d'existence de la famille missionnaire d'Onoum. C'était le dimanche 21 avril à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. En Guinée, nous irons à la découverte du moyen séminaire Saint-Jean 23 à Kindia, à l'ouest du pays. Et l'actualité sociopolitique sur le continent nous conduira en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Sénégal, entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, la parole sera donnée à l'historienne belge Elisabeth Bruyère. La chercheuse en histoire contemporaine nous parlera de la diplomatie vaticane en Afrique sous le pontificat du pape Pie XII, alors que la colonisation battait son plein. Et nous terminerons cette édition par la rubrique « Prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde ».
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, a célébré mardi 23 avril à Saint-Georges, son saint patron, et ce jour a été décrété férié au Vatican. François, qui sera en visite pastorale le dimanche 28 avril à Venise, au nord-est de l'Italie. D'une prison pour femmes de la Giudecca aux artistes de la Biennale d'art contemporain, en passant par la vénération des reliques de l'évangéliste Mac, l'évêque de Rome passera 5 heures dans les canaux de la Sérénissime. Ce séjour éclair sera marqué par 4 prises de parole. Prendre soin des enfants vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la deuxième phase du projet FAITH, basé sur l'approche confessionnelle visant à accroître l'identification et le traitement des enfants vivant avec le VIH, Caritas Internationalis a outillé jeudi dernier une dizaine de staff de Caritas et de prêtres des diocèses pilotes sur l'application Data Mobile. Un outil qui facilitera la collecte des données sur le travail de sensibilisation des communautés contre la stigmatisation et la discrimination, de prévention et de soutien au dépistage et traitement précoce du VIH pédiatrique. Marcel Ariston-Blé nous en dit plus.
La phase 2 du projet FIF, approche confessionnelle visant à accroître l'identification et le traitement des enfants vivant avec le VIH, passe à une nouvelle étape de son déploiement avec l'application Data Mobile sur laquelle une dizaine d'acteurs clés, essentiellement des staffs de Caritas et des prêtres de Grand Bassam, Korogo, Katiola et Yopougon, diocèse pilote, ont été outillés jeudi 18 avril 2024 au centre CERAO de Pastoral et l'émission à Abidjan-Cocody. L'objectif principal de ce projet, promu par Caritas Internationalis, est d'augmenter la demande de services pédiatriques liés au VIH à travers les activités pastorales ordinaires, entre autres les messes, visites aux malades, écoutes, écoles de mariage, rencontres de CEB, et cela en se concentrant sur 3 piliers, à savoir la sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, la prévention et la mise en relation avec les structures de santé, a fait savoir Daniel C., chef des opérations responsable suivi et évaluation de Caritas Côte d'Ivoire, point focal de FEF Côte d'Ivoire. Cet outil, la data mobile, à en croire Claudia Lombardi, chargée de communication de Caritas Internationalis, permettra d'adresser un des défis majeurs du projet lié à la collecte des données pour mesurer les efforts des guides religieux en termes de sensibilisation contre la stigmatisation, discrimination des personnes vivant avec le VIH et SIDA, d'orientation pour le dépistage précoce ainsi que de soutien à l'observance du traitement en faveur des enfants vivant avec le VIH. Marcel Ariston-Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, la famille missionnaire Donum a procédé à l'ouverture solennelle du jubilé de ses 75 ans d'existence le dimanche 21 avril 2024. La messe d'ouverture officielle de ce jubilé d'albâtre a été présidée par le nonce apostolique au Burkina Faso, Mgr Michael Kroti. Paul Da.
C'est l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila qui a servi de cadre à cette célébration qui s'est voulue sobre mais bien fervente. À l'occasion, les travailleuses missionnaires de l'Immaculée ont tenu à marquer le 40e anniversaire du retour à Dieu de leur fondateur, le père Marcel Roussel Gall. Pour ce faire, elles ont effectué une procession d'offrandes avec, outre le pain et le vin, 40 bougies allumées symbolisant les 40 années de l'entrée dans la lumière de Dieu du fondateur de la famille Donum Dei. Ces bougies ont été portées par une famille de la fraternité missionnaire Donum Dei pour signifier que les familles sont appelées à être lumière auprès des autres familles. Un panier contenant plusieurs éléments symboles des différentes activités que réalisent les travailleuses missionnaires de l'Immaculée et signifiant que l'œuvre de leurs mains est appelée à être l'expression de leurs prières, de leurs offrandes et de leurs louanges au Seigneur. À la fin de la messe, le nonce apostolique a remis à 12 membres de la famille Donum Dei de grosses bougies allumées afin que par eux un feu embrase le monde, le feu de l'amour de Dieu selon le vœu de leur fondateur, dont l'œuvre a vu le jour le 11 février 1950 et s'est étendue au Burkina Faso en 1961. Paul Da, Ouagadougou pour Radio Vatican.
L'Église a célébré dimanche 21 avril la journée mondiale de prière pour les vocations, occasion pour nous d'aller à la découverte du moyen séminaire Saint-Jean 23 dans la préfecture de Kindia, à l'ouest de la Guinée. Depuis Conakry, Joanita Scholastic.
Ce séminaire a vu le jour en 1962 à l'initiative de Raymond Marie Tshidimbo, alors évêque de Conakry, et a pour vocation de servir de pépinière la formation des futurs prêtres. Écoutons le père Marcel Isidore Lama, actuel directeur du moyen séminaire Saint-Jean 23 de Kindia, qui revient sur l'historique et les perspectives.
Ce séminaire est historique et il porte le nom de Saint-Jean 23 parce que l'année 1962 correspond à l'ouverture du deuxième concile du Vatican II, lancé sous l'initiative du pape Saint-Jean 23. Voilà pourquoi ce séminaire porte son nom. C'est un séminaire qui a formé des prêtres qui constituent le presbytérium de Guinée. Mais il y a une perspective que nous entrevoyons pour les années à venir, c'est celle de rouvrir le collège. Parce que plus on prend tôt les jeunes, plus ils sont mieux formés et mieux mis dans le moule de la vocation sacerdotale. Donc, dans les années prochaines, nous allons ouvrir le collège également.
Joanita Scholastic, Conakry, pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. Respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, appel mardi du président français Emmanuel Macron lors d'un échange téléphonique avec son homologue rwandais Paul Kagame, qui l'a aussi invité à renouer le dialogue avec le président congolais Félix Tshisekedi. Le président français a abordé lors de la conversation la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier dans le nord Kivu. Selon l'Élysée, cette province frontalière du Rwanda est en proie aux violences de nombreux groupes armés qui se sont récemment intensifiés. Les rebelles du M23, soutenus par Kigali, se sont emparés de vastes pans de ce territoire. Plus de 50 000 personnes ont été déplacées par les combats dans une région disputée du nord de l'Éthiopie, selon l'ONU lundi, une dizaine de jours après le début d'affrontements entre des combats des régions du Tigré et de l'Amhara. Samedi dernier, plusieurs ambassades en Éthiopie, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, se sont dites préoccupées par les informations faisant état de violences dans les zones contestées du nord de l'Éthiopie et avaient appelé à la désescalade et à la protection des civils. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour un partenariat repensé avec l'Union européenne lors d'une déclaration conjointe avec le président du Conseil européen Charles Michel en visite au Sénégal. Entre l'Europe et le Sénégal, la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons un partenariat repensé, rénové et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations, a déclaré le président. président Dioma Yafai. Les dirigeants de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye se sont convenus à l'issue d'une réunion consultative de lutter ensemble contre les impacts de l'immigration clandestine et d'unir leurs positions et leurs discours sur cette question. À l'initiative du chef de l'État tunisien Kais Saied, le président algérien Abdelmajid Tebboune et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Menfi ont participé lundi à une première réunion consultative au palais présidentiel de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis. Comment la diplomatie vaticane s'est-elle prise en Afrique sous le pontificat de Pie XII, alors que la colonisation battait son plein? Des éléments de réponse avec l'historienne belge Elisabeth Bruyère. La chercheuse en histoire contemporaine est intervenue la semaine dernière à la conférence internationale sur la diplomatie vaticane et la formation de l'Occident sous le pontificat de Pie XII à l'université pontificale grégorienne à Rome. Nous l'écoutons dans cette deuxième partie de l'interview que nous vous proposons.
La diplomatie vaticane, comme on le sait, est une diplomatie de compromis et de neutralité. Donc il faut jongler à la fois avec les aspirations nationalistes du clergé émergent, qui est encore moins nombreux que les missionnaires européens, et à la fois avec le pouvoir de l'autorité coloniale sur place. Et donc c'est encore une question très compliquée. Maintenant, les engagements du Saint-Siège ne sont pas politiques. Ce qui sous-tend à l'action du Saint-Siège, c'est toujours l'évangélisation, qu'on peut retrouver à la racine de toute mesure, de toute décision qui est prise aussi bien en Afrique qu'ailleurs. C'est un peu, on pourrait dire, la ratio legis de toutes les directives, c'est le salut des âmes.
Et comment le Saint-Siège s'y prend alors dans sa diplomatie, puisque le pontificat de Pie XII se passe sous la colonisation pour la plupart des pays africains?
Comme le Saint-Siège, c'est de très longue date qu'il faut acculturer la religion au pays, il tente donc d'y adapter l'Église, mais c'est un peu une gageure puisqu'il doit faire cela avec des missionnaires que l'autorité coloniale a bien voulu accepter sur le territoire. Et l'autorité coloniale, elle veut très souvent des missionnaires de la nationalité du pays. Donc c'est pour ça que, en raison de la politique des missions nationales, la grande majorité, entre 75 et 80%, ou entre 75 et 80%, sont belges. Donc, une question compliquée entre tous ces acteurs. C'est aussi une question très intéressante grâce aux documents qu'on peut retrouver dans les archives du pontificat de Pie XII, qui se place vraiment en continuité par rapport au pontificat de ses prédécesseurs et qui s'ouvre avec la consécration des deux premiers évêques africains de rite latin. C'est pour ça que dans cette question, au lieu d'étudier toujours l'histoire de l'Église en Afrique sous l'aspect de l'histoire des missionnaires sur place, c'est pour ça que c'est intéressant, pour interroger tous ces rapports, d'étudier le parcours des premiers prêtres congolais, rwandais, burundais.
Les parcours des premiers prêtres, justement, est-ce qu'il y a quelques figures africaines émergentes qui ont participé à la diplomatie vaticane à l'époque? Et si oui, quelle était leur contribution?
Oui, de manière générale, les diplomates vaticans restent encore en grande majorité italiennes et dans tous les cas européens. Cependant, c'est un cas qu'on ne connaît pas encore beaucoup, que j'ai pu étudier récemment. C'est le cas de Mgr Kidane Mariam Kassa, qui était vicaire apostolique des catholiques de rite Gèze en Érythrée, qui, avec l'expulsion des missionnaires italiens d'Abyssinie dans les années 1941-42, par les Britanniques et par les Éthiopiens, va être amené à remplir plusieurs fonctions d'importance. Donc il va désormais gouverner depuis Addis Abeba et il va devenir le premier représentant pontifical noir, puisqu'il va devenir régent de la délégation apostolique d'Addis Abeba. Donc ça, c'est un cas assez exceptionnel pour l'époque, qui mérite vraiment d'être étudié, surtout qu'il va avoir des avis très nets sur la manière de continuer à mener l'évangélisation en Éthiopie, surtout au regard du rite à appliquer, puisqu'il y avait un conflit de rite entre le rite latin et le rite gèze.
L'historienne belge Elisabeth Bruyère, la chercheuse en histoire contemporaine, interviewée par Stanislas Kambashi. Refermons cette édition avec notre rubrique « Prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde ». Christian Lossambé.
Notre rubrique nous conduit essentiellement au Mexique, en France et au Cambodge. Les Mexicains se rendront aux urnes le 2 juin 2024 pour renouveler leurs élus nationaux et locaux, et parmi eux le chef de l'État. Dans cette perspective, les évêques du pays organiseront une journée nationale de prière pour le processus électoral le 26 mai prochain, ont-ils annoncé lundi, espérant ainsi que le vote se réalise dans la paix et amène des résultats favorables pour le bien du Mexique. Une veillée de prière aura également lieu dans la nuit du 23 au 24 mai dans la basilique de Guadalupe à Mexico. À un mois et demi des élections européennes, la Commission des épiscopats de l'Union européenne, COMECE en sigle, a invité à prendre le scrutin au sérieux. Réunis à l'occasion de leur assemblée de printemps en Pologne, du 17 au 19 avril, les responsables de la COMECE ont salué aussi le processus d'élargissement de l'Union, un processus qui nécessite néanmoins des réformes et demande de réfléchir une nouvelle fois sur les valeurs communes du continent européen. Olivier Bonnel.
Les futures adhésions à l'Union européenne ne sont pas seulement une nécessité géopolitique pour la stabilité de notre continent, explique la COMECE, mais un message fort d'espoir pour les citoyens qui souhaitent vivre dans la paix et la justice. L'invasion russe de l'Ukraine a généré une nouvelle dynamique dans l'élargissement de l'Union, notent les épiscopats européens. Si les candidats doivent continuer à poursuivre leurs nécessaires réformes structurelles, la crédibilité du processus d'élargissement nécessite aussi des mesures concrètes de la part de l'Union pour se préparer à accueillir de nouveaux membres, explique-t-il encore. Pour la COMECE, il est fondamental d'actualiser l'idée d'une Europe unie, enracinée dans une solidarité concrète et de redécouvrir avec une fidélité créative les grands idéaux qui ont inspiré sa fondation. Les évêques européens déplorent donc une Europe qui étale parfois trop le spectacle de ses divisions. Durant cette assemblée en Pologne, la COMECE a aussi rappelé combien l'Église catholique avait accompagné le processus d'intégration européenne depuis ses débuts. À quelques semaines d'un scrutin crucial pour le continent, les évêques invitent aussi les citoyens européens à prendre au sérieux ces élections. Il y a 10 ans, rappelle-t-il, l'Europe s'est enrichie de 10 nouveaux États membres. Aujourd'hui, dans un monde fragilisé et multipolaire, la vision d'une Europe unie et fraternelle, irriguée par le christianisme, est plus que jamais nécessaire.
Il y a 5 ans, les donateurs de France et d'ailleurs se mobilisaient pour contribuer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Cet intérêt soudain pour le patrimoine religieux, la Conférence des évêques de France a voulu s'en servir pour lancer des états généraux du patrimoine religieux. Le père Gauthier Mornas, chef du projet, a expliqué en quoi mettre en valeur ce patrimoine pourrait contribuer à évangéliser.
On a consulté toutes les équipes de France qui accompagnent depuis 5 ans les adultes vers le baptême. Un tiers de ces équipes a répondu et sur ce tiers, près de 35%, donc un peu plus d'un tiers, ont attesté que le patrimoine religieux était le premier motif objectif de conversion des jeunes adultes. Donc en fait, cette consultation, moi, elle m'a confirmé dans l'intuition que l'on a avec les états généraux que lorsqu'on s'intéresse aujourd'hui dans l'Église au patrimoine religieux, on ne le fait pas comme esthète, on ne le fait pas comme personnes qui sont sensibles à la beauté, on ne le fait pas parce qu'on est passionné d'histoire ou d'architecture, on le fait parce que c'est utile pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et s'il en était besoin, j'en suis pas sûr, hein, mais s'il en était besoin, aujourd'hui, tous les chiffres nous disent que s'occuper du patrimoine religieux, c'est être missionnaire et c'est évangéliser.
Et nous refermons cette rubrique en nous rendant au Cambodge, où 200 jeunes catholiques ont convergé dans la capitale Phnom Penh pour un grand rassemblement de 3 jours à l'occasion de la 61e journée mondiale des vocations, célébrée dimanche 21 avril, une journée que le pape a voulu placer sous les signes de l'espérance en vue du jubilé. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, cette rencontre témoigne d'un élan et d'une belle dynamique de vocation sacerdotale et religieuse. C'est ce que nous a expliqué avec joie le vicaire apostolique de Phnom Penh, Mgr Olivier Schmilthausler.
On peut dire quand même que ces dernières années ont été des belles années. J'avais mis en place en 2014 des nuits de prière pour les vocations une fois par mois et on a eu 100 nuits de prière entières pour les vocations. Et ça porte des fruits pour une si petite église, parce que rapportée à 20 000 catholiques, avoir 13 prêtres cambodgiens actuellement, plus quelques religieuses aussi, en particulier les amantes de la croix et quelques sœurs salésiennes cambodgiennes, c'est un beau signe d'espérance pour notre église.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. J'ai eu un grand plaisir à vous la présenter. On se dit au revoir et à très bientôt.